Merci Jean-Pierre. Puis merci aussi à Nadine qui nous a apporté vraiment un témoignage percutant, qui nous encourage même à persévérer dans notre foi pour expérimenter cette grâce, cet amour de Dieu, cette expérience de communion avec le Seigneur. Ma prédication est suite à ce témoignage, mais aussi suite à ma dernière prédication qui a beaucoup interpellé les gens. Je pense que je n'ai jamais eu autant de personnes qui m'ont remercié pour ce message de la dernière fois, mais aussi des personnes qui m'ont aussi dit certaines remarques, surtout ma femme, qui n'était pas très contente, parce que j'étais assez moralisateur et accusateur. Mais sachez que vraiment, ce n'était pas ça du tout. Je vous résume un peu le message de la dernière fois. Je vous avais dit, examinons-nous nous-mêmes. Si nous sommes vraiment dans la foi, d'après la parole de 2 Corinthiens 13, 2, examinons nous-mêmes si nous sommes vraiment dans la foi, car en se mettant en question, nous allons savoir où nous sommes vraiment dans la foi. Et c'est ainsi que nous saurons que si nous sommes vraiment en Christ ou pas. Et puis, j'ai aussi dit qu'il est possible de se détourner de Dieu, d'après Hébreux 3. Suite à ce message, en tout cas, j'ai reçu pas mal d'emails et surtout un email d'un frère qui m'a dit j'ai beaucoup aimé et il m'a posé cette question: existe-t-il un indicateur pour voir notre état spirituel? Alors j'ai répondu ainsi: la Bible nous dit que Dieu a le désir et le pouvoir de sauver sans réserve tous ceux qui sincèrement le recherchent. Bien que personne n'est juste à part Dieu seul, Dieu nous accorde sa grâce pour ceux qui le recherchent sincèrement. Et je souhaite que le Seigneur te touche davantage par la grâce, par sa grâce et son amour. La foi qui sauve est celle qui dure. Elle s'inscrit dans la durée qui peut tester quant au sérieux de notre foi. La foi qui sauve implique une vraie connaissance de Dieu, par la parole bien sûr, parce que la foi vient de ce qu'on entend, et puis la prière, l'obéissance, etc. Et j'ai donné le verset de Hébreux 4, 12, « La parole est vivante, efficace, plus tranchante que toute épée à double tranchant, et pénétrant jusqu'au plus profond de l'être, jusqu'à atteindre âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les dispositions et les pensées du cœur. » S'il y a un indicateur pour savoir où j'en suis, j'ai dit à ce frère que peut-être voir, constater entre moi il y a 10 ans et moi de maintenant. Et puis, j'ai terminé ma réponse parce que j'ai pas que ça à faire. Et j'ai réfléchi pour ce dimanche et je me suis dit pourquoi ne pas prolonger de cette réponse. D'ailleurs, j'ai d'abord pensé ce qui est primordial. Pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre? Pourquoi Jésus-Christ est venu sur cette terre? Et j'ai pensé un peu pour mon introduction, j'aimerais vous dire qu'il y a une réalité dans la vie. On a entendu le témoignage, on sait aussi dans nos vies que la vie n'est pas si simple. La vie n'est pas si simple parce qu'il y a des épreuves, parce qu'il y a des souffrances, parce qu'il peut y avoir des accidents qui peuvent vraiment nous terrasser complètement. Il se peut que nous perdions tout, comme Job. Job a perdu tout. Alors, est-ce que Dieu le Père a envoyé son Fils pour que nous puissions s'en sortir de toutes ces épreuves? Je dirais, non, c'est pas ça le but principal de l'envoi du Seigneur Jésus. Le Père a envoyé le Fils afin que quiconque croit en lui et ne périsse point. C'est ça le premier objectif, le salut. Il n'est pas venu essentiellement pour nous sortir de toutes ces épreuves, pour nous sauver, il est venu essentiellement pour nous sauver, pour venir sauver les pécheurs. C'est ça son objectif principal. Bien sûr, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, Dieu nous guérit. Dieu résout les problèmes. Dieu change les circonstances, les situations. Mais le but principal de la venue du Christ, c'est le salut. Et le salut, c'est vrai, vient par la foi, mais cette foi aussi est éprouvée durant notre vie. C'est ce que nous avons entendu aussi les témoignages. J'aimerais vous lire dans 1 Pierre, chapitre 1, verset à partir de 7, jusqu'au verset 10, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Lui que vous aimez sans l'avoir vu et qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. La foi est éprouvée, et c'est par la foi que nous sommes sauvés. Voilà. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée ont fait de ce salut l'objet de leur recherche et de leur investigation. Le verset commence par l'épreuve de votre foi. On peut être secoué par les difficultés de la vie. Et on peut se dire, mais Seigneur, je suis chrétien, je t'appartiens, mais pourquoi ce genre de choses m'arrive? On peut se poser plein de questions, mais Dieu nous dit, persévère. Persévère dans la foi. Et c'est ainsi que nous verrons la gloire de Dieu. Et c'est ainsi que nous obtiendrons le salut qui était, depuis toujours, l'objet des recherches et des investigations de tous ces prophètes que Dieu a envoyés dans le monde. Voilà, nous sommes sauvés par la foi, mais cette foi est éprouvée. J'aimerais raconter un petit peu mon expérience personnelle, comment je suis atterri à l'Église. Je pense que j'ai dû avoir 10 ans ou 9 ans. Et c'est à ce moment-là que je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il y a après la mort? J'allais pas à l'Église, seulement mes parents, je pense qu'ils n'étaient pas vraiment des bons chrétiens, parce qu'ils ont laissé leurs enfants pour aller eux-mêmes à l'église, sans se soucier des enfants. Et en tout cas, à l'époque, je me posais souvent des questions, mais qu'est-ce qu'il y a après la mort? Est-ce que j'existerai après la mort? C'était une question existentielle que je me posais à l'âge de 9-10 ans. Enfin, je sais pas si... ça se passe comme ça auprès de nos enfants. Et un jour, mon ami, mon copain, m'a invité dans son église. Quand je suis entré, je ressentais une paix intérieure. Et puis j'ai commencé à aller à l'église. Et j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai appris, c'est que ce que j'ai compris en tout cas, c'est que c'est pas en allant à l'église qu'on est sauvé. J'ai appris que nous sommes sauvés par la foi. Alors, c'est quoi la foi? Je me suis posé la question. Qu'est-ce que c'est que la foi? Je ressens cette présence de Dieu. Je sais maintenant que Dieu existe. Est-ce que c'est cette connaissance de Dieu qui me sauve? Vous savez, cette connaissance, c'est comme si... Vous savez, j'ai jamais été en Afrique. Mais je sais que l'Afrique existe, n'est-ce pas? Je crois que l'Afrique existe, mais je n'ai jamais été. Parce que j'ai vu des documentaires, j'ai vu des Africains dans nos églises, et puis voilà, il y a des preuves. Je n'ai jamais vu Dieu, mais par les témoignages, par les livres, aussi par la nature, on sait que Dieu, enfin, on peut avoir cette connaissance de l'existence de Dieu. Mais est-ce que cette connaissance de l'existence de Dieu nous sauve? Est-ce que en disant que c'est vrai, Dieu existe, c'est vrai, Jésus est venu il y a 2000 ans, mort, ressuscité. Je sais. Est-ce que cette connaissance nous sauve? Non, non, non. Cette connaissance ne nous sauve pas. D'ailleurs, dans Jacques, chapitre 2, il est dit, 19, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu? Tu fais bien. Mais les démons le croient aussi. Et ils tremblent. » Les démons, le diable, croit exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il croit à l'existence de Dieu, il croit que Jésus est mort, ressuscité, etc., etc. Alors, c'est quoi la foi qui sauve? C'est quoi la foi qui sauve? Et donc, en allant à l'église, voilà, je me suis posé cette question, voilà, c'est pas cette connaissance qui me sauve, et je suis arrivé à la foi, à cette troisième étape où il faut vivre cette foi, notre foi. D'ailleurs, dans Jacques, en parlant de, voilà, tu crois qu'il y a un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, ils tremblent. Pourquoi il dit ça? Jacques voulait encore dire que la foi sans les œuvres est une foi morte. La foi sans les œuvres est une foi morte. Il faut vivre selon la foi, selon notre foi. Dans Romains 6, verset 6, il est dit aussi, « Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. » Voilà, il y a deux réalités. Le vieil homme et la nouvelle création, plus tard. Et on a entendu le témoignage de Nadine, elle a beaucoup essayé auparavant pour se défaire de toutes ses dépendances, cependant, elle n'y arrivait pas. Elle disait que Dieu prend du temps, il attend, il va selon notre rythme. Mais voilà, Dieu, à un moment donné, a fait grâce et elle a été délivrée. Pour dire que Dieu intervient par la grâce de Dieu. Et on ne peut pas, bien sûr, être sauvé par les œuvres, mais ce qu'on vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. On n'est pas sauvé par les œuvres, c'est vrai. Mais ce qu'on vit à l'intérieur se voit à l'extérieur. C'est très important. J'aimerais encore lire un verset dans Romains 10, verset 10. Comment vous comprenez cela ? C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. En fait, il y a deux états, l'état intérieur et notre état extérieur. Notre état intérieur, c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. D'abord, c'est à l'intérieur que ça se passe, et ensuite, il est dit, c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Qu'est-ce que cela veut dire, après, d'après vous? Il suffit de confesser que Jésus est le Seigneur et que nous sommes sauvés, nous obtenons le salut. Est-ce que c'est ça? Je dis toujours qu'il faut comprendre la Bible selon le contexte. Et Paul, lorsqu'il a écrit ce verset, il était dans quelles circonstances? L'Église était persécutée. On ne pouvait pas confesser que Jésus est le Seigneur à l'époque, sinon on risquait la mort. Il y avait un grand danger. Quand il dit que c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, ça veut dire que, est-ce que tu es prêt à donner ta vie pour croire en Dieu? C'est ça. Est-ce que tu es prêt à mettre en pratique cette parole que Dieu nous donne? Aujourd'hui, confesser de la bouche, qu'est-ce que ça veut dire confesser notre foi aujourd'hui? Est-ce que vivre quelque chose de merveilleux avec le Seigneur, comme des choses extraordinaires, la guérison ou des délivrances, ressentir, expérimenter la communion avec le Seigneur parfaitement? Oui, sûr, certainement, mais je dirais que confesser le Seigneur, c'est dans la vie quotidienne aussi. Ce n'est pas seulement vivre des choses extraordinaires. J'étais avant-hier à l'imprimerie pour faire des photocopies, et puis on me demande si je suis étudiant, parce qu'il y a un prix spécial. J'ai dit non, je ne suis pas étudiant. Bon, merci en tout cas de me voir. Et il me dit si, tu es étudiant. Pour dire qu'il faut dire oui, comme ça je te ferai un prix. Et j'ai dit non, je ne suis pas étudiant. Et je pense qu'il n'avait pas compris que je voulais vraiment mettre l'accent là-dessus, que je ne voulais pas mentir. Et là, il dit non, il faut dire oui. Il faut dire oui que tu es étudiant pour avoir une réduction. Et j'ai dit non, je ne suis pas étudiant. Désolé, si vous voulez faire une réduction, c'est super, mais je ne suis pas étudiant. Bon, après, il a vu tout ce que j'ai imprimé. C'était des choses de l'Église. Donc, il a vu que j'étais chrétien. Apporter, vivre, je pense, en confessant le Seigneur comme le Christ, c'est dans des petites choses. Ça commence par des petites choses, et même ça va même jusqu'aux des grandes choses où on est prêt à donner notre vie pour le Seigneur. Si vous voulez connaître l'histoire des hommes de foi, vous pouvez lire dans Hébreux 11. Il y a pas mal de personnages qui ont montré leur foi devant le Seigneur, mais aussi devant les hommes. Et parmi tous ces personnages, un personnage qui m'interpelle, c'est Enoch. Vous connaissez Enoch ? C'est celui qui n'est pas mort, qui n'a pas connu la mort pour rejoindre le Seigneur. Dans Hébreux 11, il est dit « C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. » Avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Là, ce qui m'a beaucoup interpellé, c'est qu'il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Je pense que Dieu a vu son témoignage en tant que chrétien, mais aussi, je pense aussi, des autres personnes qui l'entouraient. Recevoir le témoignage que nous sommes agréables à Dieu est aussi important. Vivre maintenant en tant que peuple de Dieu, c'est important. Enoch, quand nous voyons dans Genèse, il est dit qu'il a vécu en communion avec le Seigneur et il a été enlevé. La communion avec le Seigneur, juste, il n'a pas fait des choses extraordinaires. Juste un verset pour dire, il a vécu en communion avec le Seigneur et il a été enlevé. Et dans Hébreu, ça précise que il avait un bon témoignage aussi auprès de Dieu, mais aussi auprès des autres personnes. Et c'est ce que nous devrions vivre, c'est-à-dire que vivre vraiment la foi que nous avons. Vivre en tant que peuple de Dieu, en tant que citoyen du royaume de Dieu. Je répète encore, ce n'est pas par les œuvres que nous sommes sauvés, mais si nous avons le Christ dans mon cœur, ce qui est à l'intérieur est visible à l'extérieur, devient visible à l'extérieur. Et sachez aussi que dans cette étape où on veut vraiment croire, ou même davantage suivre le Seigneur, il y a des batailles à mener. Il y a des batailles à mener. D'ailleurs, Paul nous dit, « Je trouve donc en moi, dans Romains 7, cette loi, verset 21, quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. » J'ai beaucoup réfléchi là-dessus quand tu étais partant pour changer. Finalement, on n'arrivait pas. On n'arrive pas. Car je prends plaisir à la loi de Dieu, selon l'homme intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Moi, je comprends ainsi. Il faut prendre au sérieux le péché. Et c'est vrai. On veut faire le bien pour le Seigneur, mais parfois, c'est difficile. Parfois, il faut vraiment combattre durement. Et on peut perdre des batailles. Après cette confession, après avoir écrit ce Romain, Paul, tout vers la fin de sa vie, il disait dans Timothée 2, chapitre 4, verset 6, il a terminé ainsi. Quant à moi, donc il va bientôt mourir. Quant à moi, je sais déjà, je suis déjà sur le point d'être offert en sacrifice. Le moment de dire adieu à ce monde est arrivé. Et ensuite, il dit trois phrases très importantes. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Trois choses. J'ai combattu le bon combat. Lui qui a confessé que je, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Après, il dit tout de suite après, c'est Jésus-Christ. Il loue le Seigneur Jésus qui intervient par la grâce pour le changer, pour le faire changer, pour l'élever auprès de Dieu. Mais dans cette étape, il y a toujours des combats à mener. Et c'est pour ça qu'il dit, j'ai combattu le bon combat. Et puis surtout, il n'a pas arrêté sur le chemin. Il a achevé la course. Il a achevé la course. Et enfin, j'ai gardé la foi. J'ai gardé la foi. Je dis ça toujours que c'est une grâce. C'est une grâce. Je ne peux pas comprendre pourquoi Dieu nous accorde cette grâce. Parce que il n'y a rien de bon en nous. On ne peut pas faire des choses que nous faisons. C'est par la grâce que nous faisons des choses merveilleuses. Pourquoi? Je ne comprends pas. On ne peut que être le spectateur de cette grâce que Dieu nous accorde. Oui, il y a peut-être des tentations qu'il peut y avoir, qui peuvent nous terrasser, qui peuvent nous tenter. D'ailleurs, devant ces tentations, les péchés, la gravité du péché, Jésus nous dit dans Marc 9, « Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la, mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la gêne, dans le feu qui s'éteint point. » Il dit, « Si ton pied pour toi est une occasion de chute, coupe-le. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer dans le royaume de Dieu n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la gêne. » C'est très dur. Il dit, il vaut mieux être manchot que d'être jeté en enfer. C'est vrai que l'œil est l'organe des sens. On a beaucoup parlé de sens ce matin. D'ailleurs, l'œil est en liaison avec le monde extérieur. Et transmet les données à l'homme intérieur. Et je me dis, mais qu'est-ce que nous faisons avec ce que le Seigneur nous a donné? Les pieds, les mains, les yeux, qu'est-ce que nous faisons? Sachez que l'œil est la lampe du corps. La victoire sur la tentation commence par la maîtrise sur notre corps. Et tout ça, bien sûr, je répète encore, non pas par notre propre force, mais par la force que Dieu nous donne. L'œil conduit à la perte, au salut, etc. Et puis Dieu, Jésus nous dit que il faut arracher, etc. C'est des gestes assez durs. Il faut se faire violence, mentalement et moralement. Pourquoi il dit tout cela? C'est parce que pour dire que c'est du cœur, c'est très très violent. Pour dire que l'importance du salut. C'est du cœur que vient la convoitise. J'aimerais vous terminer par Hébreux 11, 6. Or, personne ne peut plaire à Dieu sans la foi. En effet, celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Que nous puissions vraiment le rechercher davantage. Et surtout, comme Paul a confessé tout à la fin de sa vie, que nous puissions dire comme Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, malgré les circonstances difficiles, les épreuves que j'ai pu traverser. Et puis j'ai enfin gardé la foi. Que le Seigneur nous bénisse. Amen. Prions. Seigneur,